Il était sur son char.
Amateur.
I put a spell on you.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires,
noble. Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu le 102.2. Aujourd'hui, nous vous proposons une carte blanche. Alors, je rappelle rapidement ce que cela signifie. Nous invitons une compagnie, un collectif, qui ont donc une heure à disposition pour nous parler de leurs projets, leurs aventures, leurs rêves, leur quotidien, les galères, la révolte, ou pas d'ailleurs. Enfin bref, ils et elles font bien ce qu'ils et elles veulent. Une émission donc de découverte et de totale liberté, même si je l'avoue, ça fait quand même un peu flipper de parler derrière ces micros. Et aujourd'hui, nous allons parler de Trip. Alors que ce soit aux côtés de deux sœurs septuagénaires qui, en direction du Nord, souhaitent retrouver la tombe de leur père. Un road trip donc, dans lequel, comme dans tout bon road trip, l'important n'est pas la destination, mais le voyage. Et Trip pour une plongée au cœur de l'univers de la nuit, des clubs et de l'alcool. Bonjour donc Sven Narbonne et Thibaut Vincent du collectif La 11e.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous allez donc nous parler de tout ça. Bienvenue dans les studios de Radio Canu.
Merci. Merci beaucoup.
Alors, vous faites partie du collectif La 11e. La 11e, déjà je fais ma question à Nouna. Pourquoi La 11e? Parce alors, que vous êtes 11
Non, à la base, justement. À la base, on était 11. C'est tout simplement pour ça qu'on a appelé La 11e, La 11e. Finalement, on a fini 10 dans le collectif. La 11e, donc on a créé collectif qu'on a créé en 2012 à la base, donc des comédiens, des techniciens, scénographes, photographes, techniciens son, lumière et des comédiens. On s'est réunis pour du coup
et des metteurs en scène.
On s'est réunis pour être plus fort, pour créer plus
de diversité artistique.
Exactement.
L'idée aussi.
Se compléter.
Oui, et puis l'idée c'était aussi de, dans un premier temps en tout cas, le rêve c'était un peu d'arrêter de monter une compagnie par projet, ce qui se fait beaucoup en fait pour chaque projet, c'est des fois plus simple ou ça paraît plus simple de créer une compagnie, donc on s'est dit avec les différentes compétences qu'on avait, les différentes personnes qu'on avait rencontrées, donc on était en 2012 à ce moment-là, qu'il serait plus intéressant de tout rassembler sous un collectif et pas une compagnie, l'appellation est importante pour nous, pour effectivement que chacun soit libre de proposer un projet et que tout le monde puisse, à l'intérieur du collectif, voter pour ou contre, on va dire, ces projets et savoir si le collectif prenait en charge ces projets. Donc ça, c'était le but dans un premier temps, ça a fonctionné, ça fonctionne encore un peu, mais ça a bien fonctionné sur les premières années de création. Et puis, comme la vie avance et les gens vont chacun un peu dans leur direction, le collectif s'est resserré depuis un an autour de 3, 4, 5 personnes qui travaillent quasiment en permanence pour le collectif, dont Thibaut, Thibaut Vincent, qui est le directeur artistique maintenant du collectif, et Annabelle Faucon, qui est l'administratrice du collectif La 11e.
Il y a donc une identité, La 11e ?
L'identité de La 11e, je dirais que ça serait un peu l'immersion du public. Alors ça peut paraître bateau, parce que dans le théâtre, évidemment, c'est un peu ce qu'on cherche à chaque fois, que le public soit le plus touché, rentre le plus...
Souvent bloqué par le quatrième mur.
Oui, 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 mais même la plupart des pièces, on essaye de toucher le plus possible le spectateur et qu'il soit le plus possible avec les acteurs, ou en tout cas sur scène et dans l'histoire. Et là, nous, on essaye donc vraiment de viser ça par rapport au positionnement du personnage, par rapport au fait de casser certains codes, comme tu viens de dire, le quatrième mur, dans l'adresse et dans où est-ce qu'on place à certains moments les comédiens. Ce qu'on aime bien faire, c'est des formes qu'on appelle le happening, où justement... certaines fois, ça sort de l'audience.
Ouais, c'est poser la question. C'est ce qui peut être assez intéressant, c'est quand le spectateur se demande est-ce que c'était
prévu ou pas.
Dans beaucoup des projets qu'on a fait, il y a ce fil conducteur qui a, à mon sens, demande un travail au spectateur, qui lui demande de réfléchir et pas d'être affalé. L'exemple inverse serait la télévision. Tu parlais de Cyril Hanouna à l'instant, sur le fait d'être affalé dans son canapé et de ne pas avoir, d'avoir aucun effort.
D'être passif.
Ouais, d'être passif, complètement passif. Et c'est ce qu'on, je crois que c'est ce qu'on défend avec le collectif La Onzième, c'est un effort, une intelligence, et le spectateur est intelligent si on lui permet de l'être.
Dans et le spectateur, il y a acteur.
Exactement, exactement, mais oui. Et le spectacle n'a pas lieu sans spectateur, c'est, ou sinon c'est des formes de performance. Mais le spectacle, l'art vivant, se joue aussi s'il y a un spectateur et pas quelqu'un qui n'est pas un zombie, quelqu'un qui est actif, comme tu dis.
Et vous êtes, si je ne me trompe pas, retrouvés tous au sein d'une même formation qui est dispensée par le Théâtre de l'Iris.
C'est ça.
Donc pour les comédiens, oui.
Pour les comédiens, voilà. Ouais. Donc le Théâtre de l'Iris, je rappelle, c'est un théâtre qui se trouve à Villeurbanne, au niveau du métro QC, pour être précise.
Exactement.
Qui est un théâtre qui propose, ça fait presque 30 ans, même je crois que ça fait 30 ans, qu'ils sont ouverts, qui proposent vraiment des va-viens entre ce qu'on dit le théâtre professionnel et le théâtre dit amateur, et vraiment d'essayer de casser ces frontières-là, d'être vraiment ouverts, d'être disponibles sur leur territoire qui est donc Villeurbanne. Ils proposent par exemple le festival Brut de Fabrique, qui est vraiment très intéressant sur ce projet de va-et-vient, donc comme je viens de le dire, entre les amateurs et les professionnels. Et donc une formation qui est donc en lien avec le conservatoire de Villeurbanne, l'ENM.
C'est ça, une formation en plusieurs cycles. Le dernier cycle donc, se passe au conservatoire de Villeurbanne, à la base conservatoire de musique, avec une section théâtre. Les cours de technique de jeu sont dirigés par Philippe Clément, donc le directeur de la compagnie du Théâtre de l'Iris et du Théâtre de l'Iris. Et donc c'est pas la formation la plus prestigieuse de France, mais c'est vraiment une technique, une formation vraiment qui reste de qualité et dont vraiment on salue parce que ça nous a beaucoup fait avancer.
Ah ben on serait pas là sans eux, enfin clairement, hein, je veux dire, c'est tout ce qu'on a appris et le chemin qu'on a pris, c'est grâce à la formation qu'on a reçue là-bas. Thibaut Vincent, Sébastien Mortamé aussi. Est passé par là, Arlo Doucan qui travaille avec nous sur Tranquilizer, dont on parlera, est passé par là aussi, et nous ça nous a vraiment apporté ou ouvert des portes, et cet enseignement nous a vraiment vraiment apporté au quotidien, quoi, je trouve. Je
sais pas. Ouais, bien sûr. Ouais.
Maintenant nous allons parler d'un autre théâtre, le théâtre qui vous accueille actuellement en tant que compagnie associée, le Théâtre des Clochards Célestes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots sur ce titre compagnie associée? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment?
Ben, déjà ça a un rapport avec le changement de direction du Théâtre des Clochards Célestes, la reprise par Louise Vigneault qui succède à Elisabeth Saint-Blanca. Et dans l'optique de la programmation 2017-2018, Louise voulait associer des compagnies pour leur proposer un temps de création. Ce qui est très rare dans des théâtres de cette envergure-là, on va dire. C'est-à-dire, c'est une salle qui, quand même, fait 49 places, donc c'est pas énorme. Il y a pas.
Une petite économie.
Ouais, exactement, exactement. Tu es bien placé pour le savoir, Charlotte, il me semble. Et donc, il y a une difficulté de lieu pour répéter et de temps, d'offrir du temps à ces compagnies-là pour pouvoir travailler. Et en associant 5 compagnies au Théâtre des Clochards Célestes, Louise voulait proposer un mois de sur place pour travailler d'abord dans la salle de répète, puis dans le théâtre. Moi, je lui ai proposé une mise en scène, une création, dont j'avais des idées, des utopies, on va dire, à un moment donné. Une création avec une commande d'un texte passé à un auteur. Et on a discuté autour de cette question dont on parlait tout à l'heure, de l'immersion du spectateur, de comment on peut questionner aussi la place du spectateur, à spectateur acteur ou spectateur passif dans le théâtre. Et c'est quelque chose qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui nous intéresse. Donc Louise a trouvé ça intéressant également et nous a proposé de faire partie des 5 compagnies associées au lieu pour une création qui se joue. En fait, on a un mois dans le théâtre entre notre création, une reprise et les dimanches qu'on peut organiser aussi là-bas à 18h30. Voilà comment ça s'est passé et voilà où on en est, je pense, avec le théâtre des Clochards Célestes.
Alors parlons donc de cette création qui s'appelle Tranquilizer. Ouais. Alors Tranquilizer, j'ai juste les plaies parce que j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui n'arrivent pas à le prononcer. Donc c'est Tranquilizer. Ouais. Donc Tranquilizer,
c'est... Et c'est volontaire.
Mais c'est quoi? Explique-nous.
Alors Tranquilizer, c'est donc la création du collectif L'Anzième qui sera jouée du 4 au 13 avril au Théâtre des Clochards Célestes. C'est un texte que le collectif, et plus particulièrement moi, on a commandé à Adrien Cornadja, qui est un auteur avec qui j'avais travaillé sur le festival En Acte, d'abord comme comédien, puis comme metteur en scène. Festival En Acte donc de Maxime Mention, qui joue là depuis 3 ans maintenant.
Nous avons accueilli aussi sur Radio Canu, au Théâtre de la Gamelle, pour présenter son projet En Acte.
Voilà, d'accord, exactement. Adrien Cornadja, et puis on a discuté. Moi, je voulais... j'ai passé une commande à Adrien sur un texte qui mêlerait Trainspotting, Macbeth et Agatha Christie. Wow. Ouais, donc on est sorti Tranquilizer. Moi, je voulais parler de la drogue, du rapport à la dépendance, à l'alcool, au corps, au sexe, à toutes les dépendances qu'on peut avoir. Et Adrien, finalement, a écrit un texte qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et comment est-ce qu'on se perd dans la drogue, dans l'alcool, dans d'autres dépendances, alors que ça soulève une question plus fondamentale sur le soi. Et comment est-ce qu'on se sent vide à l'intérieur et quel vide on essaye de remplir avec drogue, alcool et tous ces subterfuges. Et on a, au-delà de ça, sans être moralisateur, parce que c'est ça la grande force d'Adrien, et c'est pour ça que je l'aime comme auteur, c'est qu'il n'est pas moralisateur, je crois, enfin à mon avis. Il ne dit pas la drogue c'est mal, l'amour c'est bien.
Il fait un constat.
Ouais, c'est un constat, et il y a la drogue, il y a l'alcool, mais il y a aussi la spiritualité quelque part. Il y a un des personnages interprété par Charlotte Fermant, qui joue le personnage de Marlou, qui voue sa vie à Bouddha. Et toutes ces décisions sont prises en fonction de Bouddha et de comment est-ce qu'elle place la spiritualité comme base à toute sa vie. Et donc, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Je sais pas. Adrien, je crois, ne sait pas non plus. Mais en tout cas, on a envie de montrer ça. On a envie de montrer des gens qui vont trop loin ou qui sont trop ancrés sur quelque chose. Voilà.
Excuse-moi, j'ai rigolé parce que du coup j'ai pensé au lieu de Bouddha à Booba, du coup ça m'a fortement rigolé.
Pourquoi pas?
Mais pourquoi pas, hein, oui. Pour être spirituellement engagé vis-à-vis de Booba.
Dirigé par Booba.
Toi?
Non, pas du tout.
Sinon ça me fait penser à cette magnifique chanson de Marina Foïs qui chante « Alcool, la vie me donne la gueule de bois et l'alcool arrange ça », qui est quand même magnifique.
Oui, c'est vrai. Ouais, merci Charlotte. Pour...
Petite note. Et donc, c'est vrai que nous, on est à peu près tous à peu près le même âge, on nous appelle la génération Y, parce que du coup, une sorte de procrastinage, de pas vraiment savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, et souvent repousser donc au lendemain, et qu'on a... On est un peu des fois tendance à aller faire la fête et puis on s'en fout.
Enfin, oui, à remplir des espaces de vide.
À remplir ce vide. Et c'est aussi pour ça que tu avais envie de... Il y a quelque chose de personnel derrière cette commande.
Oui, complètement. Encore une fois, c'est pas un jugement, c'est un constat. Et puis moi, ça part aussi d'une expérience personnelle. Et je me tourne vers Thibaut pour qu'il soit d'accord. C'est une expérience personnelle qu'on a aussi partagée, lui et moi.
Oui, bien sûr.
Vous êtes coloc, non?
On est coloc.
On est amis depuis...
Une dizaine d'années, depuis qu'on est arrivé à Lyon, on s'est rencontrés, puis nous ne sommes pas quittés.
Sa main vient de toucher la mienne.
Voilà. Non, mais il y a un club qui s'appelle l'Apothéose à Lyon, qui est à côté de la place du Griffon, qui ouvre, si je ne me trompe, vers minuit et qui ferme à 7h du mat, ou c'est 5h midi. Enfin, c'est un club un peu particulier, qui est un after où la bière est en bouteille et pas forcément froide. Et
cher, non?
Parce que non, pas tant que ça, je crois.
Après, je pense qu'on s'en soucie plus vraiment à cette heure-ci.
On s'en souvient pas vraiment, surtout, je crois. Et donc c'est la question qu'on se pose, c'est quand on sort de boîte, quand on sort avec ses potes et qu'il est l'heure de rentrer, pourquoi est-ce que tu continues? Pourquoi est-ce que tu vas boire la bière en trop, la bière de trop? Quel est ce vide là? Quel est ce besoin là? Moi c'est ça qui m'intéresse. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'on cherche à remplir ça?
On sent vide.
Ouais. Pourquoi? Et tu parles de génération Y, on en parlait tout à l'heure un peu avant l'émission, mais moi je parle de génération canapé qui, par rapport encore une fois au spectateur et à sa position, d'être passif, de regarder BFM TV et de commenter le monde depuis son canapé ou depuis son smartphone. Et en même temps, je juge pas. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Tu vas dans un métro, 80% des gens ont la tête sur le smartphone. C'est juste un constat. Il faut juste. Je crois que le théâtre peut aussi parler de ça. Et un des personnages interprété par Olivier Borle, qui joue le patron du tranquilliseur, qui s'appelle Boris dans le tranquilliseur, passe sa vie sur son téléphone pour avoir des nouvelles de sa fille. Et à la place de l'appeler ou de la voir, le rapport qu'il a avec sa fille est un rapport numérique, de téléphone. Voilà, on le dit. Après, le spectateur se fait son avis là-dessus.
Ouais, c'est ça. Ça peut, du coup, si on en revient à Tranquilliseur, parler aussi de ce côté un peu de blocage, du fait de ne pas avoir envie ou surtout de ne pas savoir comment progresser dans sa vie professionnellement, ne pas, et du coup oublier un peu tout ça et rester un peu dans une espèce d'entre-deux, dans une espèce de solitude. On peut parler d'amour, on peut parler de confiance, ou je sais pas, il y a plusieurs raisons, mais du coup comment traiter de ce côté un peu de blocage, d'inaction, quand tu parles de génération canapé, par un trop-plein de choses peut-être qui vient de la télé ou dans notre vie, et du coup on se renferme. Par exemple, ce personnage de Boris qui s'enferme dans sa boîte qu'il a créée, sa boîte After. Il parle de 10-15 ans qui travaille dans cette boîte, et du coup comment il arrive à créer cette prison pour ne pas avancer. Et c'est un peu le cas aussi des clients de ces boîtes After, en tout cas Tranquilliseur, pas forcément les autres, je juge pas, mais comment ils poussent encore le vice, comment ils boivent encore une bière de trop, ils prennent encore un peu plus de drogue pour soit ne pas se rendre compte qu'ils n'avancent pas, mais soit en tout cas oublier, ou peut-être, on parlait tout à l'heure de se remplir de quelque chose par une joie ou un plaisir qu'ils peuvent confondre avec de l'amour.
Et puis tu parlais, Charlotte, des âges. On a à peu près là dans ce studio tous le même âge. Et c'est quelque chose de très important dans Tranquilliseur, c'est que c'est pas des gens qui ont la vingtaine et qui font la fête. Et ça, c'est pas que c'est normal, c'est on est tous passés par là à un moment à faire la bringue et c'était très bien. C'est aussi comment à 30, 35, 40, tu refuses, ça me fait penser à ce que tu disais là, Thibaut, sur le personnage de Boris, tu refuses d'avancer. Et ça devient glauque, en fait. Une espèce de jeunesse.
Ouais. Quelqu'un qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas grandir, et du coup, ça en devient pas triste, parce que du coup ça sera un jugement, mais voilà, ça le met dans une case, dans un endroit où cette personne reste dans le besoin de découverte et l'innocence jeune, des premières soirées, des premières cuites, et de comment tu cherches par, je sais pas, le plaisir, n'importe lequel, et comment ça, tu restes un peu bloqué là-dedans.
Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que du coup tu restes bloqué, mais tu vas aussi à la recherche d'un lâcher prise aussi. Alors tu vas en parler plus de manière plus approfondie, mais du coup d'essayer de retrouver quelque chose de plus profond en soi, et de trucs plus naturels, de ce qu'on appelle l'instinct, le côté animal, de lâcher prise. Ouais. Je veux m'enlever de mon carcan qui est imposé par la société, Je vais faire la fête, lâcher prise, me droguer, picoler comme ça. Mmh. Je me sens plus libre et à la recherche de cette pulsion animale.
Mmh. Ouais, ouais. Je pense que c'est si on écoutait plus souvent nos pulsions et notre instinct, on prendrait moins de drogue et moins d'alcool. Je crois que on chercherait moins de...
Alors que c'est marrant que souvent, enfin, il y a certaines drogues, surtout les drogues un peu ce qu'on peut appeler chamaniques, ouais, où on va justement essayer de par la drogue retrouver ton côté.
Mais je pense que ça c'est d'une part lié aussi à certaines personnes. Tu parlais de chaman. Moi, je suis pas du tout spécialiste en la matière. Je pense qu'il faut se tourner vers Thibaut pour avoir un peu plus d'informations.
Non, forcément sur les chamans, mais je suis curieux et c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu.
Ouais, voilà. Mais je suis d'accord avec toi ce que tu dis sur les chamans, mais c'est une utilisation par certaines personnes qui sont sorciers, qui sont médecins, qui sont ce que tu veux. Je crois qu'au-delà de ça, quand tu te promènes, Thibaut m'en a un peu parlé, mais il en parlera sûrement mieux que moi, mais quand tu te promènes, parce que Thibaut a pas mal voyagé, entre autres dans la jungle en Amérique du Sud, pardon hein, de raconter ta vie.
Un grand aventurier, Thibaut.
Non, mais vraiment, un peu.
Les reportages de Thibaut.
Alors aujourd'hui, la Bolivie.
Mais quand tu es avec des gens qui y vivent, il y a une connexion à la nature et qui n'est pas en lien avec la drogue qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas. Il y a juste une connexion avec ce qui les entoure, avec la nature, avec la forêt, qui est quelque chose que nous, dans nos villes, et encore une fois, c'est pas grave, c'est juste un constat qu'on a perdu. Comment est-ce qu'on s'écoute les uns les autres? Comment surtout on ne s'écoute pas les uns les autres? La drogue, en pensant aller chercher quelque chose d'instinctif chez soi, finalement referme sur son cercle, sur soi-même, sur son cercle d'amis. Et dans le tranquilliseur, la pièce, qu'on joue donc au Clochard Céleste, il est question de ça aussi. C'est-à-dire que ces trois amis qui sont dans cette boîte ou qui est vide, où il n'y a pas d'autres clients, mais en fait, ça leur va très bien comme ça. Ils sont ensemble et qu'il y ait du monde ou pas autour, leur soirée aurait été la même. Je m'égare là-dedans.
Non, mais c'est ça, on parlait d'instinct. Je sais pas si on peut lier l'instinct à le besoin ou l'envie de prendre de drogue, mais en tout cas, on peut comprendre que par rapport à d'autres cultures, d'autres civilisations dans d'autres pays, on est plus ou moins connecté à ce côté instinct, et on peut comprendre le fait qu'on ait envie de craquer, de lâcher, de faire sortir, de retrouver l'instinct animal par ce côté un peu de société qui nous impose énormément de choses, et du coup ça peut se comprendre que quelquefois j'ai envie de boire une bière, ou deux, ou trois, ou cinq, et prendre des trucs plus forts pour lâcher et sortir et oublier et se remplir de plaisir, et voilà, comme on a parlé tout à l'heure.
Oui, c'est juste que je voulais revenir sur le mot instinct, parce que toujours un mot qui me fait un peu peur, que je pense que c'est parfois une construction culturelle, l'instinct, qu'on se dit l'instinct animal, c'est ça, parce que déjà, on parle d'instinct maternel qui n'existe pas. Voilà, l'instinct maternel n'existe pas, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Et c'est juste, je comprends le mot instinct, mais juste le reposer, que c'est ce qu'on appelle l'instinct, c'est donc une construction culturelle qu'on pense être proche de la nature, mais que ça reste quelque chose qui est construit, une construction culturelle. Il y a un portable qui a dû faire une petite radiation. On va profiter justement de cette intervention du portable pour faire une pause musicale. Je vous laisse le choix de la musique. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez écouter?
Pour être d'accord avec Tranquilizer, on pourrait écouter une chanson qui s'appelle Tranquilizer.
Ah, c'est pas mal.
Ah ouais, et c'est Oliver Huntman. Juste pour dire, c'est autour de cette chanson qu'Adrien, l'auteur, et moi-même, on a compris ce qu'on voulait faire comme spectacle, ce qu'il voulait écrire et moi mettre en scène. Et c'est en écoutant cette chanson-là qu'on a trouvé un peu l'environnement, les enjeux et le lieu dans lequel on voulait inscrire ce spectacle. Voilà. Je peux le faire à la bouche s'il faut. Thank you.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Canu avec le Théâtre de la Gamelle. Je suis en compagnie du collectif La Onzième et vous venez d'écouter Oliver Huntman. Huntman, je suis vraiment
c'est bon,
pas
c'est
le
ça,
c'est ça. Avec Tranquilizer. Alors Tranquilizer, qu'est-ce que c'est ?
Alors Tranquilizer, c'est une boîte. C'est une boîte dirigée par Boris et avec qui a un employé qui s'appelle Cielo. Dans cette boîte after un peu glauque qui s'est au fil des ans comment dire
sali, usé.
Voilà, qui s'est usé. Il y a trois clients qui rentrent plus ou moins habitués de cette boîte pour passer leur lundi soir entre 2h et 4h du mat. Dans cette boîte et régler des histoires à trois pour eux, pour ces trois clients, pendant que se joue également pour Boris et Cielo la question de ce dérèglement de cette boîte, de cet univers qui s'écroule sous leurs pieds sans même qu'ils s'en rendent compte. Plus rien ne tient, les chiottes sont sales, le bar est sale, l'ensemble du bar voilà, s'effondre et Boris s'en est pas aperçu. Et voilà, donc c'est ces cinq personnages-là qu'on voit vivre. Et c'est important, ce terme est important, qu'on voit vivre parce qu'ils sont en permanence sur scène, les cinq. Juste pour dire, les cinq, donc c'est Boris, Cielo qui sont les employés qui sont interprétés respectivement donc par Olivier Borle pour le personnage de Boris, Thibaut Vincent qui est à côté de moi là pour le personnage de Cielo, et les clients sont Andy joué par Sébastien Mortamé, Tania interprétée par Pauline Coffre et Marlou interprétée par Charlotte Fermant. Voilà, donc c'est ces cinq clients dont on va voir des bribes de vie
durant une soirée
entre 2h et 4h du matin.
Voilà, ça. Ta question, Charlotte, c'était aussi qu'est-ce que veut dire Tranquilizer.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
C'est donc, tu sais mieux que moi.
Le tranquilizer, ça vient de l'anglais tranquillisant, et c'est comment est-ce que effectivement par la prise de tranquilizer, de calmant, on passe à côté de certaines choses. Donc c'est comment on devient amorphe. Comment en fait, en cherchant à se remplir, encore une fois, hein, on se vide et on perd du sens et tout devient événement alors qu'au fond il se passe pas grand chose. En fait, c'est une soirée assez normale, mais pour tous, sinon il y aurait pas théâtre. Ça va être une soirée, ça va être un déclic.
Tu parles de catalyseur d'ailleurs. Tu fais le lien entre théâtre et la nuit qui catalyse, qui provoque quelque chose.
C'est ça. Et l'alcool aussi, qui est la drogue, qui catalyse. Un endroit de la parole qui fait que les relations sont tout de suite trop fortes ou plus fortes.
Et la musique forte aussi qui empêche, qui évite de s'écouter réellement, de se parler réellement.
Ouais.
On peut mettre ça sur le dos de la musique forte quand une discussion n'est pas bonne et ça nous rassure.
Ouais, je t'entends pas. Du coup, je t'entends pas. Ouais.
Je t'entends pas, passons à autre chose.
Ouais, je vais me remettre à danser,
comme ça on oublie ce qui est important.
Ouais, c'est ça. Et donc l'univers dans lequel on plonge le spectateur, pour revenir sur la question de l'immersion, dans le rêve, quand je l'ai pensé avec Adrien et les copains de la 11e, c'était de mettre les spectateurs pendant une heure et demie dans une boîte de nuit, c'est-à-dire de transformer le théâtre des Clochards Célestes en boîte de nuit, enlever toutes les assises, mettre du son, de la lumière, faire un bar à l'intérieur et faire une boîte de nuit. Bon,
on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça, pour des raisons de sécurité et même d'immersion du public. On s'est dit que mettre les spectateurs pendant une heure et demie debout avec de la musique forte et que les dialogues soient par exemple surtitrés et projetés sur le mur, en fait c'était pas si intéressant que ça, c'était pas réellement du théâtre mais plus une performance qui a pu être faite avant, où tu enfermes des gens dans une pièce et tu leur dis maintenant amusez-vous quoi. Vous êtes obligés, vous avez payé, vous êtes obligés d'assister à ce truc, mais vous êtes obligé de vous amuser. c'est pas forcément le but et l'envie de la 11e.
Non, parce qu'il y a un texte aussi, il y a quelque chose qu'on a envie de défendre.
Ça reste
du
théâtre.
Ça reste du théâtre. On a envie, moi j'ai envie qu'on entende le texte, j'ai envie qu'on. Donc on a été obligé de transposer.
Et c'est aussi la magie du théâtre, c'est qu'on n'a pas besoin, par exemple, de manger du brocoli. Enfin, un comédien n'a pas besoin de manger du brocoli pour faire. Parce qu'il y a une didascalie qui dit manger de brocoli, ouais, pour faire ça. Et
effectivement.
Il peut faire autrement.
Oui.
C'est le théâtre, justement, qui permet de trouver d'autres parts par à cette contrainte.
Bien sûr.
Par la transposition.
Par la transposition, évidemment.
Et c'est ce qu'on a cherché, justement.
Avec trois personnes dont je voudrais quand même parler.
Mais c'est pas pourquoi j'ai parlé de brocoli. Bon.
Mais parce que tu as envie de brocoli.
Parce que tu as envie de brocoli, Charles.
Voilà, c'est tout simple. Mmh. C'est aussi simple. On ira t'en acheter tout à l'heure, c'est promis. Non, je voulais, par rapport à cette transposition-là, il y a des gens qui ont aidé à la réflexion et avec qui on a accouché de là où on en est, en tout cas dans le travail, parce que la première étant mercredi prochain, on est encore à la fois très loin de ce que va être le spectacle et en même temps on touche, enfin on n'a jamais été aussi près de l'objet fini, et pourtant moi j'ai encore quelques aigreurs, quelques nœuds au ventre quand je vois où on en est, mais tout va bien, le spectacle avance.
Oui. Pour ce spectacle, tu as accompagné
oui, c'est ça.
Tu mets en scène et tu as accompagné du coup
de trois personnes importantes, enfin beaucoup plus que trois, parce qu'il y a les cinq comédiens, il y a trois créateurs, Anne-Sophie Gras, ici du TNS, qui fait la scénographie et les costumes sur le spectacle, qui a vraiment su transposer, là, pour le coup, vraiment de dire, la boîte, c'est tel et tel code qu'on y retrouve, c'est-à-dire une piste de danse, un endroit de bar, un toilette et un endroit où les clients s'assoient, une table, quand par exemple on prend une bouteille en boîte, on a sa table réservée. C'est ça, elle a su, par des petits îlots, enfin je vous laisserai le découvrir en venant voir le spectacle, mais transposer cette ambiance-là. Comment est-ce qu'on peut se balader de lieu en lieu sans forcément avoir à reconstituer une boîte entièrement? Il y a Harold Barm qui a fait la création son, parce que...
Et qu'il a fait, excuse-moi, en direct.
Qu'il a fait tous les soirs, qu'il la fera
c'est
tous les
DJ
soirs.
Harold.
C'est
DJ Harold, et en même temps, il accompagne, parce que DJ, je trouve, c'est pas réducteur, mais le travail que fait Harold dans le son, sur le son de ce spectacle, est assez incroyable. Moi, je connais rien en son. Il a une boîte à rythme et un espèce de gros machin qu'il appelle un synthé. Moi, je vous montrerai une photo de ce que c'est qu'un synthé et de ce qu'il a, lui, ça n'a rien à voir.
C'est juste le même nom.
C'est juste le même nom. Alors, il y a des câbles partout et il fait tout. Et il y a quelque chose où je lui dis, ça, ce son-là, je l'adore. Je le veux à tel moment. Il me dit, non, je suis désolé, c'est trop aléatoire. C'est des algorithmes trop compliqués pour le cerveau humain. Donc, ça ne sera pas tout à fait ça. Et en même temps, c'est ça qui est hyper excitant. C'est-à-dire que du coup, il est partie prenante, il est interprète musical du spectacle. C'est pas il n'appuie pas sur play pause pendant le spectacle, non, il est là, et d'ailleurs scéniquement il est sur scène, il est avec nous sur le plateau pendant le spectacle.
Voilà. Et comment on a réussi, encore une petite précision, comment on a réussi à jouer sur la transposition du DJ et de la boîte avec Harold, c'est-à-dire que quand on va rentrer, quand on va assister au spectacle, ça va pas être une heure ou une heure quinze de gros sons forts comme si c'était dans une boîte. C'est-à-dire comment on a réussi en jouant avec les codes, permettre à une pièce de théâtre de fonctionner, d'être entendue et d'être vue.
Parce que dans les transpositions multiples, il y a celle de se dire que c'est l'environnement qui change quand on est sous emprise d'alcool ou d'autres choses. Et à la place de transposer les comédiens qui joueraient tout un peu comme ça et qui seraient un peu malades, un peu trop d'énergie, un peu trop sous, un peu trop voilà, l'idée c'est que eux doivent rester le plus sobre possible, et c'est l'environnement autour qui change, et c'est le son, c'est-à-dire le son se déconstruit, je crois, enfin c'est ce que j'ai demandé à Harold, j'espère que ça sera ça, et la lumière aussi, et parce que si on se met dans une lumière de boîte de nuit, là le créateur c'est Bruce Verdi, qui lui est issu de l'ENSAT. La lumière, si on se met dans une lumière dans une boîte de nuit, on voit pas du tout les visages. On est obligé aussi de transposer et de trouver des solutions à comment est-ce que la lumière, au fur et à mesure de la soirée, devient trop forte. Et si c'est ce qu'on ressent en tant que client, comment est-ce qu'on peut faire sentir ça au spectateur?
Une autre idée aussi sur laquelle on a travaillé, c'est comment transposer, encore une fois, l'idée de l'amusement sur scène. Ouais. C'est-à-dire que quand on est spectateur et on assiste à des gens qui s'amusent, qui dansent ou qui font la fête sur scène, on s'ennuie très vite. Parce que tout est donné, l'idée est donnée, bon, on a compris, ils s'amusent. Et puis en plus, ils font semblant de s'amuser puisqu'ils jouent. Donc là, comment on arrive à, en jouant avec le corporel, la lumière, le son. Par exemple, comment faire à des moments de danse, mettre un grand silence.
Ouais.
Et puis comment
entendre les corps
et le parquet qui craque, et voilà comment, en jouant avec ces codes, on arrive à rajouter de l'intérêt et du questionnement chez le spectateur.
Voilà, et puis je voulais juste dire un dernier mot avant qu'on passe à autre chose sûrement, sur les personnes qui entourent aussi le projet. Donc j'en parlais d'Arlo Doucan tout à l'heure, qui est assistant sur le projet et qui fait un énorme travail pour aider à accoucher aussi le projet. Il y a Rémi Blasquez qui est œil extérieur là-dessus et Léa Ferrari qui est en stage de mise en scène, élève de art en scène, voilà, qui est avec nous aussi. Donc on est une grosse équipe et il y a donc Annabelle Faucon à l'administration et à la production de ce spectacle.
Très bien, alors on va écouter un nouveau morceau.
Ouais, c'est lequel que tu voulais faire écouter?
The Knife.
Moi je voudrais l'autre.
Ah, tu veux l'autre, parce que je voulais faire un petit justement Xavier Dolan dans Les Hommes Imaginaires,
ouais,
justement s'amuser
mais...
bien avec ce...
Mais si oui, ça t'embête pas par rapport à la question...
T'as tout cassé.
Bah, je suis désolé, mais alors non, moi je peux te faire la...
Carte blanche.
Par rapport à la question de la langue et de l'évolution de la langue et des langages, moi je suis très... j'aime beaucoup le rap et je voudrais qu'on écoute, si ça te va Charlotte, chanson française. Pour avoir un peu de chanson française, non ?
Comment s'appelle l'artiste ?
C'est Youssoupha.
Back Harry Potter, yeah. Check 1-2, Nodé à la prod. Check 1-2, c'est ça même. Yeah, ce putain de rap, on néglige mais il avance. Et n'écoute pas les écrits qui viennent te dire qu'il était mieux avant. Ça devient du pur vice, comme dit Alpha, je rappe sur le rap. Parce qu'à cause de lui, je n'ai plus de vie. MC ne teste pas. Pourquoi tu veux que la France respecte le rap, puisque nous-mêmes, on ne le respecte pas. Faut pas qu'on reste calme. Méga bouge, toute ma carrière, je la dois au ménage à trois et à Diable Rouge. Attends, Nodé. Viens, on se fait un vrai couplet de rap français, t'as allé ouf. T'en dis quoi?
Ouais, de toute façon, fais ce qui te plaît, hein.
Le même amour, mais pas les mêmes pots. On court le même tempo. Congo, Kinshasa,
Africa,
represento. Notre horizon est toujours vide. Je garde la vision. On dit que le rap est mort, sans remords. J'essaie de toujours vivre.
Grandir, sans peur, c'est
mais j'ai visé le top. Je suis tellement aiguisé, je te braque.
Même pour du temps.
Personne comprend les codes à part mes acolytes. Nique le proc, nique le protocole et
nique la police.
Impoli, garder de la frappe, on fera tout pour.
Eh, hey, tonton.
Dis-leur que ce putain de rap sera toujours. Une musique pas faite pour 100 personnes, même pour des
millions.
C'est ça,
pour des millions.
Arrive un peu,
comme une rébellion dans le milieu.
On est à milieu d'un modèle qui s'en va. Pour certains c'est mortel,
Alhamdoulilah ça va.
Mais on se rejette la faute quand tout part en couille et que c'est gore, hardcore.
Comme reconnaître cette
fois. C'est pour les gros durs et les familles. Les orduriers et les famines. Les torturés, les fortunés, les gosses durs et les gamines. Les victoires de la musique c'est pété, c'est pas les Grammy. Ici c'est toujours autour de la cité que l'on gravite.
Chaque quartier compte son QG.
C'est ghetto,
si jeune en mandat dépôt.
Le poids sur les épaules, les mauvaises peaux, on connaît. On a traversé le même mal, fais pas ta resta. Car si jamais on prend le mic,
okay,
je pète la capsule avec mes riffs de Dakar. Putain quel rap de crapule,
putain quel rythme de bâtard,
putain quel rythme de barbare. Essaie de nous stopper si tu veux, où tu veux, Renoir. Ok, écoute-moi,
j'ai mon job à plein temps.
Je gratte des couplets de barres depuis presque 23 printemps. Ça commence à faire long, tout ce temps passé dans l'arène. J'vais sûrement arrêter le rap avant que le rap m'arrête. Chanson française, c'est nous la chanson française. On kiffe comme des gosses frérot, Nodé. Je kiffe comme un gosse frérot. Chanson française, une spéciale pour ceux qui font la suite.
Esprit Noir, Mister C,
la DA,
Abdallah,
Alivar,
pour ceux qui font la suite.
Josma, Tito, Ami, Nord, Fianz, une spéciale pour ceux qui font la suite.
Alpha, Val, Gradu, J-Way, MZ, Dino,
une spéciale pour ceux qui font la suite. Future Génération,
Quebla, Naza, Zeku, Black Left, Shy, Giorgio, Lisa, Siano, Big Flip, Holy Ice Lamps.
Et puis la fille se met à crever. True story.
Ses narines palpitent tellement qu'on pourrait trouver ça mignon. Seulement bientôt, ce sera la finish line pour la fille. Quelques minutes. Et c'est bon. Elle s'en ira sous les fleurs. C'est ça qu'on dit. Sur le sol de ma boîte, putain, c'est ça qu'il pense, le boss Boris. Elle va se vider sur le sol de ma boîte. Combien ça va me coûter, ça encore? Il est vénère comme un bichon chez le toiletteur, Boris. Et quand même, il continue de caresser le front de la fille, comme si c'était sa fille. Boris voudrait bien lui chanter un truc qui repose, mais ça vient pas. Et puis, il n'y a que les enfants qui croient qu'une chanson ou qu'un baiser peuvent faire du bien aux blessures, non? Les seins de la fille montent et sa fesse a une allure inquiétante. On sent bien que son cœur pompe tout le sang qu'il peut, mais il y a plus de sang qui se barre que de sang qui reste. Dead end. C'est ça qu'il attend à la pauvre petite nana qui a maintenant le teint d'une pâte d'amande. Tania, la meuf qui tient le canif, elle soupire. Je pensais pas. Elle pensait pas ça arriverait, non? Elle jure, elle pensait pas que ça se passerait. Pas ce soir, en tout cas. Pas ici. Pas elle. J'ai pas ce pouvoir, elle pense. C'est juste un canif pour le shit. Les bras de Tania cherchent un support. Un havre où noyer l'instant, mais elle fait que brasser l'air ultra chargé de ce club un peu rance et foutoir où je bosse 4 soirs par semaine. Le tranquilliseur.
Vous venez d'écouter un extrait de Tranquilliseur, le personnage de Cielo, interprété par Thibaut Vincent.
Merci.
Merci Thibaut. Et donc Thibaut, tu es à la fois sur Tranquilliseur, et hop, je fais un pont avec l'autre création, Deux petites dames vers le nord, et je crois qu'elles ont un point commun. Ça dit elles, mais je...
Oui. Très beau, bon, Charlotte, entre les deux. En effet, j'interprète du coup donc Cielo, l'employé de cette boîte de nuit Tranquilliseur. Donc Cielo, c'est un travesti chanteur de cabaret dans cette boîte. Donc, qui chante du Dalida dans le spectacle, et qui joue un peu le rôle de l'ange gardien et le rôle du narrateur. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans le côté un peu shakespearien,
oui,
que tu voulais.
Des personnages qui peuvent à un moment interrompre le cours de l'action pour expliquer ce qui se passe. Un peu le cœur antique aussi.
C'est ça. Et du coup, donc voilà, dans le personnage de Cielo, on a comme une acceptation de ce qu'il est, de ce côté travesti qu'on peut juger, qu'on peut regarder, rire d'eux. Et du coup, ça lui donne comme une espèce de sagesse, quelque chose qu'il
un
a
détachement,
vraiment.
Hein.
Un détachement. Où, ce personnage a tellement, si vous voulez, vécu ou été jugé que maintenant, ça tout passe au-dessus. Ce n'est pas grave, mon loup, tout va s'arranger demain. Tu vas voir, ça ira mieux. Bois un coup, et ce n'est pas, même si tu t'abîmes un peu ce soir. Voilà, c'est vraiment... ça rapproche un peu ce côté ange gardien de ses clients qui s'abîment, de ce patron de boîte qui s'oublie, qui se ferme dans cette prison. Et voilà, c'est la personne qui, entre ce côté narrateur où il casse tous ses codes et ce côté un peu quelqu'un qui ne juge pas et qui ne veut plus juger, être jugé parce qu'il s'en moque, eh bien, regroupe un peu ces deux aspects-là. Donc ça, c'était pour le personnage de Cielo. Dans la construction, que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour ce travail, on a essayé avec Sven Narbonne de vraiment jouer sur le fil pour éviter les clichés du travesti. Donc par exemple un mec barbu, on lui met une perruque cheveux longs, des hauts talons et puis une robe ou je sais pas quoi, et puis il fait la folasse et les gens rigolent. Et vraiment on a essayé d'éviter ça, et je crois que ça marche à peu près. Par exemple, de façon pour le costume, Cielo a des perruques que quand il chante. Et le reste du temps, il a juste
une base,
donc un collant sur la tête qu'il met sous les perruques.
Une charlotte, on dit.
Comme toi. Et du coup, des talons hauts et juste un jean. Un jean
et un pub.
Oui, il a son habit du quotidien.
Son habit du quotidien qui n'est pas forcément celui d'un travesti extravagant. Et c'est juste dans la tenue, la démarche, la voix, l'élégance qu'on arrive à accepter ce personnage et accepter ce qu'il est.
C'est d'essayer de travailler sur la limite, sur le fil entre l'humour et l'émotion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à être sur cette crête avec ce personnage-là. Quelque chose qui moi me touche beaucoup, c'est comment on arrive à la fois à pleurer et dans la seconde d'après rire. Et je trouve que le personnage de Cielo prend ça en charge, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on pourrait vraiment, quand il arrive pour chanter Dalida, c'est hilarant. Et en même temps, dès qu'il se met à chanter, ça devient touchant. Et je pense que, pour parler du coup des petites dames, il y a ce rapport-là aussi dans la construction du travail pour Thibaut dans ces petites dames. Et comment est-ce qu'on est toujours sur ce fil entre l'humour, la caricature, mais non. Il doit y avoir de l'émotion et il faut que ça amène de l'émotion.
Voilà, comment, encore une fois, éviter les clichés et éviter le pathos qui en est un. Donc comment, à partir du moment où on arrive à essayer d'amener les spectateurs dans une émotion, comment boum, on part, on casse ça et on arrive dans une autre, en repartant sur quelque chose d'un peu plus ridicule et ensuite en revenant sur un côté un peu plus émouvant. Et du coup, voilà, c'est ce que on a essayé de faire avec le personnage de Cielo et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire avec le personnage d'Annette.
Est-ce que tu peux nous faire un petit speech de
évidemment. Oui, sans problème. Donc, Deux petites dames vers le nord, qui sera jouée juste après Tranquilliseur au Théâtre des Clochards Célestes du 18 au 22 avril. C'est un texte de Pierre Note, mis en scène par Émilie Guiguen, où deux vieilles dames, interprétées par moi et Sébastien Mortamé, qui joue également dans Tranquilliseur, donc deux vieilles dames qui, suite à la mort de leur mère, décident de partir avec l'urne remplie de cendres de leur mère à la recherche de la tombe de leur père qui est mort il y a 25 ans. Alors le problème c'est qu'elles ne se rappellent pas exactement où est cette tombe, où est ce cimetière, où est la commune, tout ça. Et du coup elles se rappellent que c'est à peu près dans le nord, près d'Amiens. Et dans ce périple à la recherche de ce cimetière, ça devient comme un voyage initiatique où finalement ces deux vieilles dames, ces deux sœurs qui se connaissent par cœur, se rendent compte qu'en fait elles sont un peu passées à côté de leur vie. Elles se sont juste occupées de la boutique qu'elles avaient toutes les deux, de leur mère qui était en fin de vie. Et du coup,
elles n'ont pas vécu pour elles.
Ce sont deux vieilles filles célibataires et qui juste se chamaillent sans arrêt, évidemment, pas que dans la pièce, mais toute leur vie. Et du coup, se rendent compte pendant ce voyage qui elles sont vraiment et ce par quoi elles sont passées ou non. Ce qu'elles ont raté, par exemple. Et donc voilà le lien, donc le lien entre les deux qu'on disait, c'était vraiment ce côté du choix de ces deux comédiens pour jouer ces deux vieilles dames. C'est-à-dire Emily Guiguen a choisi que ce soit interprété par deux jeunes hommes, enfin de 30 ans, plutôt que deux vieilles dames plus âgées, 60-70 ans, pour jouer justement avec ce fil-là. C'est-à-dire que si c'était une vieille dame qui jouait une vieille dame et qui jouait vraiment « je suis passé à côté de ma vie », on tombe un peu dans le quelque chose d'expliqué, de donné et presque de pathos.
Caricatural
et de pathos. Et là, du coup, ça a amené une légèreté et une distance. Parce que par le dynamisme, par un peu plus de fraîcheur, d'envie, de force même. Et du coup, voilà, on jouait encore avec ce côté, ça fait rire, parce que quand on pense à deux hommes avec des foulards en mamie, on pense aux vampes. Du coup, voilà, ça fait rire. Et en même temps, c'est pas ce qu'on voulait. C'était aussi jouer avec un côté un peu plus poétique, où c'est ces deux hommes qui racontent deux vieilles dames qui ont raté, qui sont aigries par le fait d'avoir raté leur vie.
Et puis le rire qu'on peut avoir un peu au début permet aussi d'avoir une écoute, de détendre un peu le spectateur et d'avoir une écoute du coup qui, quand on va parler de choses un peu plus liées à l'émotion, enfin ce que peuvent vivre ces deux vieilles dames, on est plus à même, nous, spectateurs, de recevoir ça. Moi, je parle juste du spectacle en tant que spectateur. Ce qui, moi, m'a paru intéressant en le voyant, c'est que d'un seul coup, ces questions que se posent ces deux vieilles dames quand c'est dans la bouche de gens qui ont 30 ans et de jeunes hommes de 30 ans, ces questions deviennent universelles. Et du coup, toutes les questions de perdre son temps, ce qui rejoint Tranquilizer aussi, de passer à côté de sa vie, dit par des garçons d'une trentaine d'années, ben du coup, oui, avec le recul, on l'entend différemment, je crois, que si ça avait été ce que tu disais, Thibaut, interprété. Et ce que tu disais, Charlotte, aussi, par rapport au Didascali, si on dit il faut manger du brocoli, on peut faire autrement. Et si c'est deux vieilles dames de 60, 70 ans, on peut aussi faire autrement et ça racontera autre chose.
Ok, parfait. Merci bien. On va devoir finir l'émission car bientôt l'émission de la poésie va commencer. Alors, je rappelle rapidement les dates. Donc, Tranquilizer, ça sera du 4 au 13 avril.
Oui, et pensez à réserver parce qu'il n'y a plus beaucoup de place.
Très bien. Et donc, c'est tous les jours à 19h30, relâche le mardi et les week-ends, samedi et dimanche, à 16h30. Et les deux petites dames vers le nord, c'est du 18 au 22 avril. Mêmes horaires, 19h30 pour les jours en semaine et 16h30 pour le samedi et le dimanche. Merci donc à vous deux, à Sven Narbonne et Thibaut Vincent du collectif La 11e.
Merci à toi,
Charlotte.
Juste un petit point agenda. Au théâtre de l'Ichronie, du 4 au 7 avril à 20h30, vous pouvez retrouver Amandine Vincent avec Des rêves, des hommes et désirs. Et en ce moment, au théâtre des Clochards Célestes, nous accueillons le musée itinérant de Germaine, qui est donc une installe sonore et scénographique. Et vraiment, c'est un collectif qui a allé recueillir des témoignages de vieilles dames. Autour de Lyon et aussi dans la Drôme, et qui racontent leur vie, qui vraiment, on rentre à l'intérieur des maisons de ces vieilles dames et elles nous expliquent ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont vécu, et c'est vraiment magnifique à écouter. On est invité à découvrir de l'intime. Donc c'est en ce moment au Théâtre des Clochards Célestes, tous les jours à partir de 14h30 jusqu'à 21h30, sauf le dimanche, jusqu'à 18h. Et ce soir à 19h30, il y a un conteur, qui s'appelle Pierre Daudet, qui vous présentera qui est un peu le gardien du musée, donc qui nous introduit, qui nous explique un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de ce musée. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne fin de semaine et un bon week-end et à la semaine prochaine au Théâtre de la Gamelle.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires.
Noble. Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.